le journal Jacques-Yves Molima.
Coopération bilatérale entre l'Angola et la République démocratique du Congo. 5 accords conclus lundi à Luanda en présence des chefs d'État des deux pays. Ces accords concernent les mines, le pétrole ainsi que le mouvement des populations. Le délai du séjour de Jean-Pierre Bemba à l'étranger expire ce lundi 31 juillet. Et ce mardi 31 juillet, son parti, le MLC, attend un signe de bonne volonté de politique de la part du chef de l'État pour le retour au pays de son leader. Prévu pour le mois de juillet qui s'achève, la bourse du gouvernement aux étudiants finalistes viendra plus tard. Et c'est là, à cause du retard de liste que les instituts et universités ont envoyé au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Signature hier lundi à Luanda de 5 accords de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Ces accords, signés par les délégations ministérielles en présence des deux chefs d'État, portent entre autres sur la question des frontières de l'immigration clandestine et de l'exploitation du pétrole et des mines aux frontières entre les deux pays. Emmanuel Imbanda Lokengalo Chichimbi est notre envoyé spécial à Luanda. Il nous brosse les objectifs de ces accords.
Les documents vont permettre au Congo et à l'Angola de procéder à l'exploration et l'exploitation du pétrole et des mines dans les zones frontalières des deux pays. Ces documents, selon le ministre congolais des hydrocarbures, vont permettre à ce que les dividendes générés par cette exploration et exploitation pétrolière soient partagés à raison de 50% pour chaque partie. Pour Mende Omalanga, les effets pourront commencer à se faire sentir dans au moins un an. L'accord de Luanda sur la construction civile et travaux publics pourront permettre la construction d'une autoroute reliant Luanda-Kabinda en passant par Soyo. Par ailleurs, les parties congolaises et angolaises ont convenu de recourir aux anciennes puissances coloniales pour la délimitation des frontières spécifiques, non seulement à Kayemba, mais sur l'ensemble des frontières des deux pays. En ce qui concerne les immigrations clandestines, le président angolais a sollicité une action commune des deux côtés des frontières. Luanda, Emmanuel Imbanda Lokengalo Chichimbi, Radio Okapi.
Le délai accordé à Jean-Pierre Bemba par le Sénat pour des soins médicaux en Europe expire aujourd'hui, mardi 31 juillet. Jusque-là, son retour au pays était conditionné par des contraintes d'ordre sécuritaire qui, selon le président du MLC, n'étaient pas encore réunies. Jean-Lucien Boussa, deuxième vice-président du groupe parlementaire du MLC à l'Assemblée nationale, estime que le problème du retour de Jean-Pierre Bemba peut être facilement résolu avec un minimum de volonté politique. Jean-Lucien Boussa, je viens au téléphone par Baben Pongo.
Je ne pense pas que les délais du Sénat soient une contrainte majeure pour le retour de Jean-Pierre Bemba. La contrainte majeure aujourd'hui, c'est la volonté politique avec sa traduction en termes de conditions de sécurité minimum, non pas seulement pour Jean-Pierre Bemba seul, mais pour tous les Congolais. Les poursuites judiciaires ne nous effraient pas parce que c'est vide de contenu.
Vous ne craignez pas que les séjours prolongés de Jean-Pierre Bemba puissent l'empêcher de briguer le poste de coordonnateur de l'opposition, par exemple?
Non, pas du tout. On a vu dans l'histoire du monde que des acteurs politiques sont restés en dehors de leur pays, ce qui n'est pas notre souhait parce que nous sommes assurés que Jean-Pierre Bemba va rentrer bientôt. Mais ils ont continué à gérer l'opposition, ils ont continué à gérer leur parti politique. Mandela fait 29 ans en prison, il a été considéré toujours comme le président de l'ANC. En plus, à l'heure des nouvelles technologies de communication, il n'est pas possible qu'on ne puisse pas manager son entreprise en étant distant de celle-ci.
Nouvelle stratégie à l'inspection provinciale de la police Kinshasa pour renforcer la sécurité. 18 points d'intervention rapide sont installés à travers toute la capitale. Ceci pour intervenir dans un certain rayon comprenant quelques communes et quartiers. Par exemple, un point d'intervention à Kitambo Magasin pour les communes de Gombe, Lingwala, Ngaliema et Bandalungwa. Cette initiative de l'inspection provinciale de la police Kinshasa a été annoncée ce lundi lors d'un point de presse de l'inspecteur provincial de la police. Au micro de Mimi Ngumba Mulongo, le général Oleko revient sur les motivations de cette décision.
S'agissant de la sécurité générale, beaucoup de cas de braquage, de vols de tout genre, vols à main armée, vols de sous toutes ses formes, beaucoup de cas d'extorsion, surtout la nuit, et particulièrement dans les quartiers non éclairés et dans les quartiers jouxtant les camps militaires. Nous avons observé qu'il y avait beaucoup d'éléments de police dans leur utilisation qui font la police qui s'apparente plus au privé que à la police qui doit générer la sécurité publique. Au fur et à mesure, nous corrigeons ce que nous pouvons corriger. Mais pour que cela se fasse bien, nous avons besoin de tout le monde, parce que la sécurité est l'affaire de tous.
À cette même occasion, le général Oleko a annoncé une nouvelle tradition de communication à la population, c'est-à-dire une conférence de presse sera tenue une fois par mois à l'inspection provinciale de la police de Kinshasa. Quatre syndicalistes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise arrêtés jeudi dernier et transférés depuis samedi soir aux services spéciaux de la police à Kilmazière, selon l'ONG Journaliste en Danger qui a contacté les OPJ qui instruisent le dossier. Ces syndicalistes sont accusés non seulement d'injures publiques et d'outrage au chef de l'État, mais aussi de tentatives de déstabiliser la RTNC et de discréditer le gouvernement par le déclenchement d'une grève. Il leur est également reproché la tentative d'organiser une réunion syndicale malgré les refus de l'administrateur délégué général. Pour le président de la délégation syndicale de la RTNC, ces accusations ne tiennent pas parce que ces syndicalistes ne peuvent pas être à la base de leur propre chômage. Richard Kalala Chitenge.
Tout celui qui veut noyer son chien, il est très facile qu'il puisse l'accuser de rage. Nous saboterions la RTNC aujourd'hui pour que nous nous transformions nous-mêmes en chômeurs. Saboter le chef de l'État, ça c'est une tentative de politisation de la chose. La raison que nous connaissons, c'est que en date du 4 juillet dernier, nous avions écrit à toutes les autorités compétentes pour demander l'organisation d'une Assemblée Générale des Travailleurs. C'était pour que la délégation syndicale rende compte à tous les travailleurs de l'échec des négociations avec l'employeur qui est resté intransigeant dans son refus de pouvoir payer la prime de rétrocession de 35% sur les recettes réalisées par la RTNC. L'ADG a signé une lettre d'opposition formelle à l'organisation de cette Assemblée générale.
Du côté des journalistes en danger, son président Donambaya demande à l'ADG de la RTNC de prendre ses responsabilités comme employeur et comme plaignant, afin de reconnaître le droit aux activités syndicales et de choisir le dialogue comme mode principal des solutions des problèmes dans la société. Donambaya.
Nous avons écrit à l'administrateur délégué général de la RTNC, M. Emmanuel Kipolongo, pour le mettre devant ses responsabilités à deux titres. D'abord, il est l'employeur des personnes qui ont été arrêtées sur le site de leur travail. Et deuxièmement, lui et son comité de gestion sont cités comme étant les personnes qui ont demandé que ces messieurs soient arrêtés. Nous lui avons rappelé que les activités syndicales sont tout à fait légales, que le droit de grève est légal et protégé par les lois du pays, et que le malaise social qui règne à la RTNC depuis de longs mois ne peut pas être réglé par des intimidations comme des arrestations, mais bien par le dialogue entre l'employeur et les représentants des travailleurs.
Sachez que l'ADG de la RTNC, joint par Radio Kapi, reconnaît avoir reçu la correspondance des GED. Emmanuel Kipolongo Mikamu Kambiloa affirme réserver à l'ONG de défense des journalistes sa réponse et s'abstient de tout commentaire. Dossier réalisé par Jocelyne Moussa-Opondé. Le paiement de la bourse d'études pour les étudiants finalistes repoussé à une date ultérieure. Cette bourse devait être payée fin juillet de cette année. Mais selon le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, les listes des bénéficiaires de la bourse lui sont parvenues en retard. Dans l'entretemps, certains établissements supérieurs et universitaires procèdent déjà à la clôture de l'année académique 2006-2007. Pourtant, le ministre rassure que tous les finalistes qui viennent de terminer leurs études seront rappelés sous peu pour être payés. Sylvain Gabou est joint par Jocelyne Moussa-Opondé.
Tous les étudiants finalistes actuels ont droit à la bourse du mois de juillet, août et septembre. Ceux qui ont terminé aujourd'hui ou qui terminent demain avant que leur compte soit crédité sont obligés de rester en contact avec leurs établissements pour venir percevoir leur bourse du mois de juillet d'abord et puis ensuite celui du mois d'août et de septembre. Le mois d'octobre, novembre et décembre, c'est pour le finaliste de l'année académique 2007 et 2008. Le budget de l'année 2008 n'est pas encore voté. Je suppose que nous allons encore demander à l'Assemblée nationale, dans le budget, qu'on puisse encore prévoir la bourse pour l'année qui va venir. Le budget sera préparé par le gouvernement à partir de, je crois, des jours qui viennent et il sera présenté à l'Assemblée nationale au cours de la session d'octobre. Nous allons bien sûr prévoir aussi la continuation des bourses.
Enseignement toujours au Nord Katanga, le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC a remis ce lundi 56 bâtiments scolaires qu'il a construits dans le territoire de Kalemie au chef de division de l'EPSP Katanga 3. La cérémonie a regroupé à l'hôtel du lac des autorités civiles, militaires, religieuses et des membres de la société civile. L'événement marque la fin du programme de l'éducation d'urgence entamé par le NRC dans le territoire de Kalemie. François Avemibé était présent à la cérémonie.
C'est au total 56 bâtiments scolaires construits en l'espace de 3 ans, soit 331 salles de classe permanentes, 359 enseignants formés et encadrés, 8269 élèves, dont 4972 filles intégrées du programme d'urgence au programme scolaire formel dans des classes de 3e et 4e année de primaire que le Conseil norvégien pour les réfugiés remet entre les mains de l'État congolais. Un protocole d'accord du 6 juillet, signé entre la division de l'EPSP Katanga 3 et le NRC, ratifié par le commissaire des districts du Tanganyika, sanctionne cette remise. Pour le Conseil norvégien pour les réfugiés, c'est au nom du droit à l'éducation des enfants des personnes déplacées qu'il a conçu et développé en partenariat avec l'UNESCO le programme d'éducation d'urgence dans les secteurs de Kalemie. Le chef de bureau de NRC, Patrick Barbier.
On a choisi de faire une remise officielle maintenant que les institutions du Congo sont véritablement en place. On voulait arriver à l'achèvement de la première phase du programme, qui consistait donc en 9 étapes qui ont permis de rescolariser en fait des enfants qui n'avaient pas accès à l'éducation et remettre l'intégralité de l'œuvre accomplie par les équipes du NRC avec la participation active des communautés à l'autorité supérieure.
L'essentiel des activités de NRC est à présent transféré dans les territoire des Moba. À Moba démarre un nouveau programme de protection et de promotion des droits des personnes déplacées. La majorité des personnes déplacées proviennent de camps des réfugiés tanzaniens et zambiens. François-Xavier Mibé, Radio Kapi, Kalemie.
Économie à présent. Au Kassai Occidental, les opérateurs économiques de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo sur l'axe Kanangamouika se plaignent. L'évacuation des produits vivriers stockés depuis de longs mois dans des dépôts et wagons de la SNCC de cette ligne se fait à pas de tortue. Ces opérateurs qui demandent à la SNCC Mouika d'accélérer la traction de ces wagons redoutent que cette situation ne les décourage en même temps que les paysans producteurs. De leur côté, les responsables de la SNCC se sont concertés dimanche dernier à Kananga en vue de faire l'évacuation de produits vivriers une priorité. Comment la SNCC compte s'y prendre? Oscar Muntompuela, directeur de la région Nord SNCC, s'explique au micro de Piro et la Mégie.
On a reçu hier un train Sankai. Il y a un train de ramassage aujourd'hui. Il va ramener ici 13 wagons la nuit. Et demain, il y a un autre train de ramassage qui va aller jusqu'à quelques mois pour revenir. Ça fait déjà 3 trains. Mais on ne va pas que faire le transfert des produits vivriers, hein, parce qu'il n'y a pas que les produits vivriers que nous devons ramener. Ça, c'est un. Deuxièmement, la SNCC ne peut pas prétendre être en mesure de ramener à Kananga tout ce qui est comme production agricole en ligne. Et n'en a pas les moyens. Il faut qu'on utilise d'autres voies d'évacuation pour pouvoir évacuer la production. Il y a la route, mais il ne faut pas qu'on oublie la route et qu'on s'acharne seulement sur le chemin de fer, hein, pour dire que le chemin de fer est lui seul capable d'acheminer toute la production là. Il faut que l'acheminement de production vienne de toutes parts, par la voie ferroviaire et par la voie routière.
Dans la province de l'Équateur, près de 80 pasteurs de l'église de la 17e communauté évangélique du CU ont subi un test de dépistage du VIH-Sida dimanche dernier à Guémena. Ce test sanctionne 4 journées de mobilisation de l'église sur le dépistage volontaire de la maladie. Cette campagne a été organisée par le programme évangélique anti-Sida Tomi Batela, l'Alliance biblique du Congo et l'ONG sud-africaine Konerelat. Selon le médecin chef du district sanitaire du Sud-Ubangi, le taux de personnes qui ont subi un test de dépistage du VIH-Sida à Guémena est le plus bas de toute la province de l'Équateur. Enfin, Festival international des arts contemporains. La première édition s'est ouverte ce lundi à Kasongolunda. Ce festival accueille des spectacles de danse, contes, musique, marionnettes et théâtre. Kasongolunda, cité de la province de Bandundu, située à près de 650 km de la capitale, était en effervescence à cette occasion, comme nous le dit Jean-Marc Matouaki, envoyé spécial culturel de la Radio Okapi.
Un carnaval motorisé animé par la fanfare Confiance de Kinshasa a emballé le public dans les grandes artères de la cité peu avant la cérémonie d'ouverture. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux se sont mobilisés dans la grande salle du collège Nsemo de Kasongolunda pour fêter avec les festivaliers venus du Congo-Brazzaville, de la Belgique, de la Roumanie et de Kinshasa. On attend encore l'arrivée de la délégation du Burkina Faso. Ces spectacles sont programmés dans des salles et sur les places publiques de Kasongo-Lunda. Le groupe Tumao de Kinshasa a ouvert les balles avec un spectacle de comédie musicale intitulé La Classe. Initié par Valentin Mitendo Mwadilinda, président de l'agence culturelle Afrique Patrimoine, le Festival international des arts contemporains de Kasongo-Lunda succède au Festival de théâtre et musique de cette cité, lancé en 1978. Le FIACAS se présente comme une vitrine des richesses culturelles de Kasongo-Lunda, un rendez-vous du donner et du recevoir. Depuis le collège Ntemo de Kasongo-Lunda, Jean-Marc Matwaki pour Radio Capi.
Voilà, complètement terminé ce journal mis en onde par Guy Manzango. Merci pour votre particulière attention.